Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, nous avons quitté la Russie après avoir rencontré un nombre important de créatrices au sein du 7e art, ce début de 20e siècle, qui sont non moins importantes que celles que nous avons découvertes en Amérique du Nord, aux États-Unis, sans compter celles que nous avons rencontrées en France, en Angleterre ou en Italie. Elles étaient comédiennes, actrice peut-être, mais aussi monteuse, technicienne, réalisatrice de documentaires, de fiction ou de cinéma d'animation, productrice et aussi compositrice de musique de film. Par conséquent, nous ne pouvons que constater que leur travail ont permis, dès son origine au cinéma, de prendre son essor, et ce, même si les femmes ont été évincées, voire oubliées pendant une bonne partie du XXe siècle. Alors, le tour du monde n'est pas terminé. Je vous invite à me suivre encore, et même dans les lieux les plus improbables, à la rencontre de ces pionnières au cinéma. Alors, que diriez-vous dans un premier temps de faire un petit tour en Amérique du Sud, le Mexique, par exemple, surtout que je vois s'avancer vers moi non seulement une actrice de cinéma, mais aussi une réalisatrice de documentaires et critique de cinéma, laquelle se nomme Elena Sanchez Valenzuela. Alors, celle-ci est née avec le XXe siècle, en 1900, et décédée juste à sa moitié, c'est-à-dire en 1950, et donc jeune, puisqu'elle n'avait que 50 ans, c'est facile à calculer. Alors, qui était-elle? Eh bien, évoquons déjà ses origines. Nous pouvons supposer qu'avec un père journaliste, elle a grandi dans un milieu propice pour poursuivre une carrière de journaliste. Cependant, elle fut aussi l'une des premières actrices du cinéma muet au Mexique et commença à jouer très jeune, dès l'âge de 17 ans, dans un film intitulé Tragic Canyon, dont je n'ai pas d'informations. Alors, l'année suivante, elle jouera dans une première adaptation d'un roman de l'écrivain diplomate mexicain Federico Gamboa, écrit en 1903 et intitulé Santa. Or, c'est l'histoire d'une jeune fille séduite et abandonnée par son amoureux et rejetée par sa famille parce qu'elle est enceinte. Bon, ce serait un déshonneur pour les parents d'héberger une fille mère à la maison. Elle n'a donc pas d'autre choix que de partir et échoue à Mexico où, pour survivre, elle se prostitue. Bref, une belle vie de femme où nous pouvons constater combien la chaleur d'un foyer compréhensif permet une belle évolution dans l'existence. Alors, au sujet du sort dévolu aux femmes, j'ai lu qu'Elena Sanchez Valenzuela était une ardente féministe, une combattante pour affirmer leurs droits. Et en ce qui concerne ce film qui remporta un grand succès, il semble qu'il servit à la propulser dans une carrière d'actrice, puisqu'elle joua encore dans d'autres films, et notamment un qui lui apporta un véritable succès en 1921, et intitulé En la Hacienda, film qui fut d'ailleurs déclaré meilleur film de l'année. Alors, apparemment, elle a joué dans des films qui avaient une certaine cote à l'époque, ceux qui traitaient des conditions de vie difficiles dans les campagnes et de la pauvreté chez les peuples autochtones. En parallèle, elle mène une carrière de journaliste, est envoyée comme correspondante en 1920 par le journal The Democrat à Los Angeles, en Californie. Elle gagne même sur place un concours organisé par un journal local, ce qui lui ouvre encore des portes, même si elle ne donna pas suite. Et c'est à partir de 1922 qu'elle commencera à écrire sur le cinéma. Et sa première publication, c'est une chronique intitulée « Le cinéma et ses artistes ». Alors, elle s'installera aussi à Paris à partir de 1929, pendant quelques temps, pour poursuivre ses activités de correspondante de presse. Et c'est en 1936 qu'elle réalisera son premier documentaire sur l'état du Michoacán, situé au centre du Mexique sur la côte Pacifique, dans le cadre d'un projet commandité par le président de l'époque, Lázaro Cárdenas. Alors, il s'agissait d'un long métrage qui fut apprécié pour ses valeurs artistiques et historiques. Nous pouvons également noter son implication qui fut déterminante pour collecter des archives cinématographiques mexicaines auprès d'entreprises, de particuliers ou d'organismes afin de constituer la première cinémathèque nationale du Mexique. Et celle-ci a été véritablement créée en 1942 sous le gouvernement de Manuel Ávila Camacho. Et pour constituer et préserver toutes ces archives, il faut mentionner qu'elle n'a pas ménagé ses efforts en sillonnant le pays et également les autres pays d'Amérique latine, comme l'Argentine ou l'Uruguay, et qu'elle a donné des conférences sur le sujet. Alors pour notre pause musicale, nous allons nous mettre dans l'ambiance mexicaine avec un classique du genre, musique traditionnelle, intitulé « Currucucu Paloma ».
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Canta. Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a la casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú. Thank you.
Alors, je vous ai présenté la réalisatrice Elena Sanchez Valenzuela, mais savez-vous que la première réalisatrice, scénariste, productrice au cinéma est née en 1883 et se nomme Mimi Derba. Alors, elle est née Herminia Pérez de León et a fait ses débuts d'artiste en tant que chanteuse à 17 ans au théâtre mexicain pour ensuite interpréter des rôles au cinéma muet. Elle écrira également des essais qu'elle publiera dans divers magazines. Et en 1917, à l'âge de 34 ans, elle fondera, avec la collaboration d'un photographe nommé Enrique Rosas et aussi d'un général nommé Pablo González Garza, une société cinématographique, la Azteca Film, où elle écrit 2 scénarios et produit 5 films cette même année. Et l'un des premiers films qu'elle réalise s'intitule La Tigresa, la Tigresse, qui serait l'histoire d'une briseuse de cœur arriviste. Alors, j'ai lu qu'elle était aussi très active dans la vie sociale et politique de son pays et qu'elle aurait fondé le premier syndicat d'acteurs pour exiger des salaires corrects et de bonnes conditions de travail. Mais il paraît aussi qu'à l'époque, dans la société mexicaine, les femmes se mobilisaient facilement pour soutenir, on va dire, les masses laborieuses et exiger le droit de vote pour elles, ce qui avait créé quelques remous au sein du gouvernement, car ces dames se faisaient de plus en plus pressantes. Et elle est décédée à 71 ans en 1953. Alors, je vous ai cité Mimi Derba comme étant la première réalisatrice, scénariste, productrice au cinéma mexicain. Mais figurez-vous qu'une Américaine née à Chicago en 1875 aurait produit le premier long métrage américain entièrement réalisé au Mexique et intitulé Flame of Mexico, Flamme du Mexique, qui lui date de 1932, connu aussi sous le nom de Le cœur de Mexico et l'âme mexicaine. Alors, il s'agit d'un film social, politique, sur fond d'histoire d'amour. Et l'actrice, scénariste, productrice de cinéma à l'initiative de ce film se nomme Juliette Barrette Rublé. Et de plus, qui était une militante féministe très investie dans le mouvement américain pour le contrôle des naissances. Alors, une autre réalisatrice au milieu de ses créatrices, même si elle n'a qu'un film à son actif, il s'agit de Candida Beltrán Rendón, qui elle est née en 1898 et donc, comme vous le constaterez, plutôt, fin du 19e siècle. Alors, elle devient orpheline assez jeune, avec à charge une fratrie de plusieurs enfants, et doit se mettre apparemment rapidement au travail pour aider à leur éducation ou les nourrir, peut-être tout simplement. Alors, est-ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'elle avait l'esprit d'entreprise, ce qui lui permettait de rebondir de multiples façons. C'est à 16 ans qu'elle écrit une histoire liée à son vécu, et c'est en 1928, 14 ans après avoir écrit l'histoire, qu'elle réalise ce premier long métrage et unique film intitulé El secreto de la abuela, le secret de la grand-mère. Alors, il est dit que c'est la première Mexicaine à avoir réalisé un long métrage avec une intrigue. Il faut dire aussi qu'elle l'a financé avec ses propres ressources. Ce qui signifie encore qu'elle a écrit le scénario, dirigé les acteurs, joué et produit son film. Mais elle a d'autres casquettes, puisqu'elle a aussi écrit des chansons célèbres, paraît-il. L'une s'intitule Mesticita Yucateca Mystique et l'autre Navidad en el Hogar, Noël à la maison. Dans toutes ses professions, activités, elle aura aussi ouvert un magasin de chaussures, un autre de jeux de loterie, si bien que nous pouvons constater qu'elle a essayé de vivre quand même sa vie artistique, et elle l'a fait apparemment comme elle pouvait. Et elle décédera en 1984 à 86 ans. Alors, nous allons faire notre pause musicale. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire écouter une artiste mexicaine qui a composé des musiques de films, entre autres, et qui fut célèbre pour un nombre impressionnant de chansons à succès dans son pays. Il s'agit de Maria Grever, née Maria Joaquina de la Portilla Torres, d'un père espagnol, d'une mère mexicaine. Elle est née en 1885, donc vous le voyez, fin du 19e siècle. Et elle aurait composé plus de 800 chansons et aussi, surtout, des boléros qui sont des danses, hein, je le rappelle, à trois temps apparues en Espagne au 18e siècle. Et elle a composé jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, survenue en 1951, et elle avait 66 ans. Alors, j'ai lu que ses intérêts musicaux se portaient surtout sur le jazz et la musique traditionnelle mexicaine. Dans le cinéma, elle a travaillé pour la Paramount Pictures et 20th Century Fox, des sociétés américaines bien connues. Par exemple, elle a composé une chanson intitulée « Te quiero diriste », « Tu as dit que je t'aime », dans un film où la sirène d'Hollywood, Esther Williams, présentait ses ballets aquatiques, film intitulé « Le bal des sirènes » de 1944. Parmi ses autres chansons à succès, je citerai en espagnol « Cuando vuelva a tu lado »,« Quand je reviens à tes côtés »,« Por si no te vuelvo a ver »,« Si je ne te revois plus »,« Tipi tipi tin », puis « Para recordar que », en souvenir de « Ya no me quieres »,« Tu ne m'aimes plus », »,« Tout, tout, tout y tout », et j'en passe, hein, car je ne vais pas citer les 800 chansons. Profitez déjà de celle-ci pour peut-être potasser votre espagnol si vous l'apprenez, hein, car j'ai cité quand même les titres en espagnol. Alors la plupart de ces chansons seront interprétées même à l'international par des artistes à succès. Bon, il s'agit apparemment et globalement d'après les titres de chansons sentimentales. Et pour en arriver là, elle a quand même étudié la musique, hein, même si j'ai lu que dès l'âge de 4 ans, elle aurait commencé à composer et que sa première chanson intitulée « Una Ola », une vague, elle l'a écrite à 18 ans. Et cette chanson se serait vendue à 3 millions d'exemplaires. Elle a donc étudié la musique en France avec notamment un compositeur français bien connu des mélomanes, Claude Debussy. Elle reviendra au Mexique à 15 ans pour continuer ses études à l'école que tient sa tante. À 22 ans, elle se mariera avec un Américain argenté, un dirigeant de compagnie pétrolière. Sa famille semble également aisée et avec son mariage, elle deviendra citoyenne américaine et passera toute sa vie à New York. Et après son décès, la chanteuse et actrice Libertad Lamarque lui rend hommage dans un biopic, qui est un film biographique, et sort un disque des chansons de Maria Grever intitulé Libertad Lamarque, Canta Canciones de Maria Grever. Bon, vous avez compris que Libertad Lamarque chante les chansons de Maria Grever. Et fin des années 50, c'est la reine du blues, Dinah Washington, qui reprend une chanson intitulée Cuando vuelva a tu lado, Quand tu reviens à tes côtés, pour remporter le Grammy Award, une distinction qui récompense les meilleurs musiciens et techniciens dans le domaine de la musique. Et ensuite, d'autres artistes internationaux, comme je vous l'ai dit, reprendront ces chansons pour les interpréter à leur tour. Et bien justement, profitons du fait que j'ai trouvé une des chansons de Maria Grever pour l'écouter. Celle-ci s'intitule « Te quiero diriste »,« Tu as dit que je t'aime », interprété par Libertad Lamarque.
Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro. Si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta
terminer cette émission. Je vais maintenant vous présenter les sœurs Hélers, Adriana et Dolores, la première née en 1894 et la seconde en 1896. Elles ont donc 2 ans d'écart et sont natives de Veracruz dans le sud du Mexique. Or, si elles ont été des pionnières au cinéma, nous pouvons aussi les nommer les touche-à-tout du cinéma, car elles ont été monteuses, cadreuses, éclairagistes. Elles étaient à l'aise aussi bien la technique pour manipuler du matériel cinématographique divers, l'installer, le régler, qu'à la vente du dit matériel. Et en plus, elles furent réalisatrices, documentaristes, photographes et productrices. Apparemment, rien ne leur échappait, même pas la politique, du moment que leurs actions portaient leurs fruits en faveur du cinéma. Alors, qui sont-elles et d'où viennent-elles ? Il faut dire déjà que leur père décède lorsqu'elles sont enfants et que la mère doit assurer seule les besoins d'une famille qui s'appauvrit. Aussi, les enfants sont mis au travail dès que possible. L'une fera et vendra des bonbons et l'autre retouchera les négatifs dans un studio de photo. Alors, j'ai lu que l'expérience studio photo fut formatrice puisqu'elle crée toutes les deux leur propre studio de photo et auraient appris ainsi toutes les techniques possibles. Il est dit également qu'elles ont photographié, en 1915, le président de l'époque, Venustiano Garanza, lequel, enchanté par leur travail, leur aurait donné une bourse d'études pour se perfectionner en photographie dans une école de Boston. Mais elles ne se sont pas arrêtées en si bon chemin, puisque grâce à une autre bourse, elles ont pu travailler à l'Army Medical Museum, qui réalisait des films éducatifs autour de la santé pour les soldats envoyés au combat lors de la Première Guerre mondiale. À ne pas douter que les sœurs Hélers ont bien profité des enseignements reçus qu'elles ont appliqués en poursuivant leur périple américain dans les studios d'Universal Pictures basés dans le New Jersey. Et lorsqu'elles reviennent au Mexique, Ben, il semble presque naturel de les voir chefs de département au sein de l'industrie cinématographique nationale, surtout pour proposer au public une image valorisante de leur pays. Et en parallèle, et comme leur parcours montre qu'elles ont également la fibre commerciale, nous ne serons pas étonnés d'apprendre qu'elles ont été les représentantes actives d'une grande marque de projecteurs, la société Nicolas Power, concurrent direct d'Edison. Alors à ces époques, elles ont surtout produit des documentaires mettant en valeur le Mexique, que ce soit pour du patrimoine archéologique ou des projets technologiques. Dans la foulée de 1922 à 1929, elles ont réalisé les premiers journaux télévisés nationaux intitulés LRS Magazine et qui se projetaient avant les fictions. Entreprenantes, elles participent en outre à la création de l'Union cinématographique, appartiennent au CROM, qui est la Confédération régionale ouvrière mexicaine, fondent leur entreprise de distribution de projecteurs et de matériel cinématographique, la Casa LRS, et elles créent une autre Casa LRS à Guadalajara, car le cinéma prend de plus en plus d'importance. Cependant, l'assassinat du président Venustiano Carranza les déboulonne de leur poste dans l'industrie cinématographique nationale. Mais ceci dit, elles s'en passent, hein, car elles ne manquent de rien en continuant leurs affaires commerciales de vente de matériel et également en vendant leurs journaux télévisés aux exploitants cinématographiques. Et c'est après une vie active et bien remplie qu'Adriana décède en 1972 à 78 ans et Dolores 11 ans plus tard à 87 ans. Et bien voilà pour notre voyage au Mexique qui n'est pas fini et que nous reprendrons l'émission prochaine. Je vous souhaite une bonne digestion de tout ce que je viens de vous apprendre si vous ne le saviez pas. J'espère que cette émission fut instructive sur le rôle des artistes femmes dans le cinéma mexicain à ses débuts. Et pour clore ce chapitre, eh bien, je vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.